Salut à tous. Bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Aujourd'hui, Florian Vanet est aux manettes et il a accueilli son collègue du Sport Center Valentin Schnork, ainsi que deux joueurs prêtés par Blue Sport, Vincent Rigolet et Giacomo Notari. Au programme, les vœux de ces messieurs quant au futur de l'équipe de Suisse, mais aussi le point sur le foot roman, avec un Servette FC qui ne s'arrête plus, un Lausanne Sport qui gagne le derby lausannois contre le SLO et Yverdon Sport qui prend l'eau. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe.
Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast. On reçoit aujourd'hui parmi nous Valentin Schnork. Bonjour Valentin.
Salut Florian, salut à tous.
Vincent Rigolet.
Bonjour.
Et le petit nouveau Giacomo Notari. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir honoré cette invitation.
Salut Florian, bonjour à tous.
On commence rapidement avec quelques mots pour conclure le chapitre équipe de Suisse. On ne fait pas forcément trop long. J'ai une question à vous poser par rapport à ça. La Suisse s'est qualifiée pour l'Euro dans un climat, disons, plutôt hostile. Si vous deviez avoir un souhait pour cette équipe de Suisse sur la route de l'Euro, ce serait quoi ? Commençons avec Vincent.
Ce serait de se réconcilier avec son public. Je pense qu'il y a une fracture entre ce qui se passe à l'interne, ce qui se passe dans le groupe et comment c'est perçu à l'extérieur. Donc, moi, j'aimerais qu'on regagne en stabilité. Alors, est-ce que ça passe par un départ de Mouratiakine ou pas ? J'en sais absolument rien. Je sais que le public le réclame, mais est-ce que c'est la bonne solution ? C'est difficile à dire. Ce que j'aimerais, c'est que les matchs amicaux à venir, alors ce sera pour la prochaine période en mars, ils soient rassurants pour cette équipe de Suisse avant qu'on parte à l'Euro avec un tout petit peu plus de sérénité.
C'est ton souhait aussi, Valentin ?
Ouais, je crois que le dernier mot de Vincent, la sérénité, c'est le mot le plus important. Alors, pour moi, c'est la finalité, mais le moyen d'y arriver, malheureusement ou pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que de se séparer de Mouratiakine, parce que il cristallise un petit peu toutes les tensions, que ce soit à l'interne du groupe, que ce soit aussi de la part du public. Forcément, il incarne quand même, il incarne un petit peu tout ce qui ne va pas, même si ce n'est évidemment pas le seul responsable, même si c'est sans doute un des premiers responsables, mais c'est sans doute pas le seul. Et donc, il faut amener quelqu'un de nouveau, simplement pour qu'il y ait un nouveau discours et puis qu'il y ait une autre dynamique interne. Et si à l'interne, ça ira bien, je pense que la perspective qu'on aura de la part, la perception qu'on aura de la part du public, elle sera bien meilleure en tout cas.
Giacomo, si toi, tu devais émettre un souhait pour cette équipe de Suisse en vue de l'Euro, ce serait quoi ?
Je pense que c'est essentiel qu'il y ait plus de clarté et de transparence autour aussi de l'équipe de Suisse, notamment voilà, chaque fois autour des matchs de l'équipe de Suisse. Dernièrement, il y a toujours eu un peu des polémiques, des déclarations qui allaient justement un peu dans tous les sens, parce que dans un premier temps, on avait l'impression que les joueurs jouaient un peu contre Yakin, qu'ils ne le suivaient plus du tout. Et puis là, on a eu ce dernier match face à la Roumanie avec Xhaka qui déclare « on espère aller avec Yakin ». Quelques jours avant, Dominique Blanc qui dit « on sera avec Yakin ». Encore quelques jours avant, Pierluigi Tammy qui dit « on va voir, on va discuter avec lui après le tirage au sort ». Donc à chaque fois, il y en a un qui parle, on dit « ah bon, ok, c'est comme ça ». Après, il y en a un autre « ah, peut-être c'est comme ça ». C'est toujours très flou, évidemment, ça découle aussi de l'instabilité sur le terrain. Enfin, ça se répercute sur le terrain. Je pense que là, l'essentiel, c'est que, et je pense que ça sera le cas, parce qu'il y aura cette fameuse discussion après le tirage au sort au début du mois de décembre, mais c'est essentiel qu'on y voit un peu plus clair autour de cette équipe de Suisse si on veut avoir une chance de faire quelque chose à l'Euro.
J'ai l'impression que avant chacun des derniers grands tournois auxquels la Suisse a participé, il y avait une forme de confiance autour de cette équipe. On la sentait capable de quelque chose. On n'a jamais parlé de demi-finale, on n'a jamais parlé de finale, mais on la voyait souvent sortir de son groupe, on espérait qu'elle passe en huitième de finale. Si l'Euro 2024 était dans un mois ou deux, cette confiance-là, elle n'existerait pas, on est d'accord.
Non, elle serait complètement érodée, parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, disons que les rares signaux qui pouvaient encore rester il y a deux semaines avant les premiers matchs contre Israël, donc Israël, Kosovo et Roumanie, les premiers signaux qui pouvaient être positifs se sont vite dissipés et estompés avec le match contre Israël en Hongrie, où c'était quand même très compliqué. Donc non, il n'y a pas de confiance autour de l'équipe. Et je ne pense pas que le travail à mener pour redonner un sentiment de confiance, d'ambition, de certitude et d'assurance soit non plus énorme, parce que les joueurs sont les mêmes, les caractères restent les mêmes. Le seul, évidemment, on tourne vraiment toujours vers ça, autour de ça. La seule problématique, elle tourne surtout autour de l'entraîneur et éventuellement de son directeur des équipes nationales, Pierre-Louis Tamy. Mais pas, elle tombe pas ailleurs, pas au niveau des joueurs et surtout pas au niveau de ce qu'ils sont capables de montrer actuellement. Même au contraire, je pense qu'on n'a jamais eu autant de joueurs qui étaient aussi performants dans des clubs aussi performants. Donc, il faut quand même se rendre compte que l'équipe, elle vieillit certes, mais elle garde encore pas mal de qualité et elle doit avoir des assurances dans le jeu, en tout cas celle qu'elle a perdue ces derniers temps.
Je vois un écho, alors c'est peut-être biaisé parce que ça avait été très médiatisé à l'époque, mais à la Coupe du Monde de la France en Afrique du Sud, avec un entraîneur qui était très critiqué, avec un vestiaire qui ne l'avait pas forcément suivi. Alors moi, j'ai ce sentiment-là aussi parce que les performances individuelles des joueurs dans les derniers matchs de qualification, ils n'étaient pas au niveau. Alors est-ce que parce qu'ils se liguent contre l'entraîneur, j'ai cette crainte-là, c'est que notre Euro soit un fiasco avec un entraîneur qui, s'il est maintenu à son poste, parce qu'on ne sait pas où ça va aller, mais s'il est maintenu à son poste, que ça ressemble à ça. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas, je ne dis pas qu'on va avoir une équipe qui refuse de s'entraîner, qui ne sort pas du bus, etc., qui va faire une lettre à lire à l'entraîneur, mais il y a quand même cette crainte-là et c'est pour ça que j'aimerais qu'on retrouve cette sérénité parce qu'on peut avoir un véritable fiasco à 7 euros comme on n'en a pas eu par le passé.
Giacomo, au-delà du cas Mouratiakine, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il suffit de quelques détails pour allumer la flamme ?
Ben, sans doute, parce que comme l'a dit Valentin, on a aujourd'hui des cadres de l'équipe de Suisse qui sont performants dans des top clubs des 5 grands championnats européens. Donc, c'est une certitude. On a l'impression que tous ces joueurs progressent en club. Et puis là, depuis un moment, donc, ça ne prend pas en sélection. Donc, certainement que le matériel à disposition pour mieux faire est là. Donc, comme tu l'as dit, il suffit peut-être d'un match ou d'un changement d'entraîneur. Moi, je suis de l'idée, comme Valentin, qu'il faudrait quand même changer quelque chose avant cet Euro. Mais oui, je pense que ce qu'il faut est là. Il faut juste faire repartir un peu la machine. Et puis, c'est un groupe qui est le même. Il a été quasiment en 2021 quand il y avait eu ce fameux huitième de finale contre la France, qui est le même qu'il y a eu au Qatar, où quand même la Suisse a montré pas vraiment des belles choses. Donc, il n'y a pas de raison que le groupe ne fonctionne plus ensemble. Il faut simplement le faire repartir, quoi, comme un interrupteur.
Chapitre équipe de Suisse refermé, j'avais promis qu'on ferait court. Merci messieurs. On bifurque vers la Super League. Avec une question pour commencer. Servette vient de prendre 21 points sur 21. Lausanne vient d'en prendre 14 sur 18. On parlait de Mouratiakine avant, mais est-ce qu'on n'a pas jugé un peu vite René Weiler et Ludovic Magnin, à commencer par sur ce podcast même où on a eu parfois des mots lourds quand même.
J'y vais. C'est pour moi, c'était pas le même constat de début de saison. Pour moi, ce qui était proposé par le LS de Ludovic Magnin n'était pas inintéressant. Il y avait pas les résultats, mais on sentait l'envie de construire quelque chose. Il y avait quelque chose sur ce terrain. À l'inverse, et là, moi, j'avais été aussi plus critique avec René Weiler. On avait un jeu qui était très stéréotypé et qui a un peu fonctionné au départ, mais qui s'est avéré sur la durée, pas cohérent, ou en tout cas, qui avait pas. Enfin, il n'y avait pas le fond de jeu pour. C'est-à-dire que oui, balancer devant et être très vertical, ça a surpris quelques équipes au départ, mais ça n'a pas fonctionné sur la durée. Et je trouve que René Weiler, il a eu cette force de se remettre en question aussi dans l'approche de ce qu'il demandait. Alors peut-être que c'était son plan depuis le départ et nous, on a été très critiques envers ça. Mais maintenant, force est de constater que oui, René Weiler a des résultats, que son jeu il a évolué, que le jeu il a changé, que Konya il passe pas son temps à voir des ballons passer au-dessus de lui et que du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus entraînant et en plus, il y a les résultats maintenant.
Ouais, non, mais c'est évident que ça, il y a quelque chose qui a pris, il y a quand même quelque chose qui a changé, en tout cas qui s'est mis en route du côté de Servette. Avec quelques adaptations tactiques, avec des associations qui ont aussi été plus pertinentes, le fait de placer Bola dans des conditions qui peuvent être intéressantes, le fait d'avoir Antunes pendant une période avant qu'il se blesse, qui commençait vraiment à trouver sa place, et ça a mis de l'huile dans les rouages. Et maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est que tu n'arrives pas à cette victoire de suite sans avoir un surplus de confiance qui soit même parfois un petit peu insolent. Hier, j'ai pas le sentiment que Servette fasse son meilleur match de sa série, mais pourtant il y a des formes de certitude, d'assurance, de sérénité qui se dégagent un petit peu tout, même quand tu t'exposes, même quand tu laisses des espaces derrière. Alors tu joues certes contre un Getse qui a quand même pas mal de défauts et quand même pas mal de faiblesses et qui collectivement, c'est assez proche du néant. Mais tu n'as pas le sentiment qu'il y ait à quelconque moment une espèce de véritable inquiétude du côté de Servette. Et cette confiance-là, elle transpire et elle est d'autant plus intéressante que Servette va aller au Wankdorf dimanche prochain avec toute cette, peu importe ce qui se passe contre la Roma jolie même, avec toutes ces certitudes, toute cette confiance. Et tu peux te dire que Servette peut très bien finir, alors certes, les trois derniers matchs, IB, Lausanne et Lugano, mais peut très bien finir l'année 2023 avec que des victoires, vu comme ça transpire actuellement.
Je trouve cette idée de surplus de confiance assez palpable. Tu es d'accord avec ça, Giacomo ?
Oui, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Valentin, hier, on a vu un Servette vraiment très sûr de lui et puis dans la gestion du match qui a semblé vraiment très mature dans la mesure où voilà, Servette était nettement supérieur à Getse, mais le but pour se mettre à l'abri, il n'arrivait pas. Il y a quand même Getse qui touche la latte juste avant la pause. Il y a ce pénalty manqué et peut-être que ce genre de match face à une équipe qui n'est pas Getse et qui propose donc quelque chose contrairement à hier, tu peux te faire punir. Donc, peut-être, ouais, par moment, il y a un peu ils ont lâché le pied de l'accélérateur, mais c'était aussi peut-être en sachant qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Et à la fin, le moment venu, tu as su te mettre à l'abri. Et je pense que voilà, hier, tous les signaux étaient ouverts. Il y a même des absences quand même de poids. Hein. Tu perds Mazikou et Crivelli pendant la trêve internationale. Stevanovic qui n'est pas là. Le remplaçant, franchement, à aucun moment du match, tu te dis, ah, s'il y avait eu Crivelli ici. Enfin, en tout cas, pas pour ma part. Et voilà, ça démontre une équipe en pleine confiance. Qui prend aussi conscience peut-être que son statut est en train de changer, qu'elle peut se permettre de gérer des matchs comme elle l'a fait hier face à des équipes de bas de tableau. Et voilà, une victoire, il n'y a pas meilleur remède pour continuer d'être encore plus en confiance.
Mais Valentin, c'est presque symbolique que ce soit Jérémy Guimeneau qui débloque le match hier.
Oui, alors il s'est débloqué contre Bâle juste avant la trêve. Et puis là, le Guimeneau que j'ai vu hier, ça n'a rien à voir avec le Guimeneau qu'on a vu pendant 2 mois, pendant 2 ou 3 mois. Il y a une espèce de fluidité dans ses gestes qui est beaucoup plus… même si ce n'est pas toujours parfait, parce qu'avec Guimeneau, on n'est jamais dans l'exécution parfaite du geste technique, de la course, de la prise de balle. Mais là, dans tous ses déplacements, dans toutes ces combinaisons qu'il peut avoir avec Bedia, avec Kuteza aussi, c'est très fluide et c'est très simple. Et tu sens que lui, tout à coup, il y a eu un truc qui s'est passé, que le fait de se débloquer contre Bâle, ça lui a donné beaucoup de sérénité, ça lui a permis de reprendre confiance en lui et de marquer directement hier sa première frappe, sa frappe du gauche, alors que c'est sans doute la plus difficile des occasions qu'il a eues du match, parce qu'il y en a quand même deux autres qui loupent, qui peut tout aussi bien être que celle qu'il a marquée hier. Donc évidemment que ce Guimeneau qui va bien, en plus au moment où Crivelli est blessé, c'est un vrai bonus et ça symbolise tout ce regain de confiance, enfin toute cette confiance qu'a engrangé Servette sur ces dernières semaines.
Et c'est peut-être même parce que Crivelli est blessé que Guimeneau, il sent que maintenant il a gagné, enfin il a gagné, alors oui par défaut, mais il a gagné cette place, qu'il est titulaire, qu'il a du temps de jeu, qu'il a du jeu à son poste aussi, parce que le début de saison, on l'a très bien vu quand il ne jouait pas à son poste. C'est très très compliqué et c'est peut-être pas uniquement les perfs sur le terrain. Il y a pour moi de le voir autant épanoui hier et jouer autant libéré. Il y a potentiellement quelque chose à l'interne aussi qui s'est passé ou quelque chose qui vient pas uniquement du terrain pour expliquer que Guimeneau il a retrouvé son jeu quoi. Hier, le but annulé de Bedia, la déviation qu'il fait, elle est extraordinaire. Et même sur son but, sa prise de balle, son contrôle en aile de pigeon, il est fantastique hein. En plus de la frappe derrière qui enchaîne. Ouais, je pense que c'est il a le réveil au bon moment pour Servette qui en a en plus vraiment besoin maintenant avec Crivelli blessé.
Ce qu'il faut expliquer, c'est quand même que Guimeneau, alors ça remonte quand même il y a déjà ça plusieurs semaines, mais il y a quand même eu un moment où il y a eu une discussion assez franche avec René Weiler où Weiler lui a expliqué qu'il n'était pas au niveau de ce qu'il attendait. Alors je schématise, hein, mais il n'était pas au niveau de ce qu'il attendait de lui et que c'est la forcé quand même à se remettre un petit peu en question Et voilà, et à travailler, à attendre le bon moment. Et puis après, je pense que quand même, dans un second temps, il y a ce but contre, ce doublé contre balle qui change un petit peu tout. Parce que c'est ce qu'il lui fallait, en fait. Hein, parce qu'on a vu quand même les matchs avant. Moi, je me souviens du match contre Stade Lausanne en coupe, où il y a deux, trois manqués qui sont complètement dingues. Là, par contre, deux piqués. Alors, on peut peut-être même remonter un poil plus loin. C'est le penalty qu'il a obtenu contre le Sheriff Tiraspol, trois jours avant le match contre balle. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de sérénité maintenant. Et puis, tout le travail qu'il a accumulé pendant les dernières semaines, après ces discussions avec René Weiler, où Weiler l'a remis un petit peu en place, que ça peut maintenant, il peut maintenant en jouir avec ses buts qu'il a remarqués.
Vincent, si tu dois choisir une chose, c'est quoi qui te plaît le plus dans le Servette actuel ?
C'est compliqué. Je trouve que sur le plan offensif, en fait, je vais aller comme ça. Je trouve que René Weiler a trouvé des bonnes solutions aux problèmes qui lui ont été posés. Il y a eu le cas du gardien, alors c'est toujours pas terminé hein, cette affaire-là, mais il y a l'absence de Stevanovic hier, de mettre Bola un cran plus haut, qui est un joueur qui finalement est peut-être pas un vrai latéral défensif, c'est plus un joueur de couloir, c'est plus un joueur qui peut apporter offensivement, et on l'a vu hier, hein, il est ultra important. Il y a Koutessa qui apporte sur le côté, mais les absences et les problèmes qui ont été posés à René Weiler, finalement, il a trouvé des solutions qui fonctionnent. Il a tenté son jeu très vertical, ça fonctionnait moins, alors il s'est un peu adapté. Donc moi, ce qui me plaît bien, c'est cette adaptabilité qu'il a eue vis-à-vis de tout ce qu'il a dû traverser dans ce début de saison qui a pas été parfait jusque-là, mais qui, depuis sept matchs, fonctionne parfaitement.
Giacomo, je te laisse prendre la balle au rebond, ça nous permettra de faire la transition sur le Lausanne Sport. À quel point tu as l'impression que Ludovic Magnin s'est adapté pour mener Lausanne où il se trouve, où il en est en ce moment?
Pour revenir un peu à ce que disait Vincent tout à l'heure, lorsque voilà, on est revenu sur les jugements qui étaient faits sur Weiler et Magnin en début de saison, la critique n'était pas la même, dans la mesure où Magnin, même lui dans ses interviews, il disait tout le temps « on a les occasions, on ne les met pas au fond ». Et puis du moment que voilà, le vent a un peu tourné, on voit que maintenant tout va beaucoup mieux pour Lausanne. Il y a eu aussi… l'intégration des nouveaux joueurs, des nouveaux ailiers. Il y a eu aussi ce brin de réussite lorsqu'il fallait. Hein. On peut penser au coup franc contre Lugano qui rentre en pleine lucarne d'une position assez défilée. Et puis à partir de là, on avait une équipe beaucoup plus en confiance. Et maintenant, un peu à la manière de Servette, les événements de chaque match ont tendance à tourner plus en faveur de Lausanne. Et puis même un match comme hier face à Stade Lausanne-Ouchy où encore une fois, tu es supérieur, mais tu es contre une équipe qui joue bloc bas, qui ne concède pas grand-chose, tu arrives finalement à t'en sortir et à repartir avec les trois points. Donc, je pense que ça faisait partie du… Je ne pense pas qu'il y a eu qu'il y a eu un tournant forcément dans la saison, mais c'est plutôt une montée en puissance progressive qui était attendue et qui a été quand même provoquée par des événements précis.
Après le match, Ludovic Magnin a dit « On aurait aimé offrir plus de spectacles au public de la tuère ». Valentin, entendre Ludovic Magnin parler de spectacle, ça te fait quelque chose ?
Oui, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ce qui le symbolise le plus depuis deux ans, depuis un an et demi qu'il est en poste. Maintenant, enfin, offrir plus de spectacles, je ne pense pas que ce soit très, très évident quand tu as une équipe comme Stade Lausanne qui vient t'opposer un bloc bas, hyper, hyper compact, hyper dense. Et surtout, tu dois le faire sans Alvin Sanchez, qui est quand même la principale caution technique que tu peux avoir, ou bien les inspirations. Si tu dois avoir des inspirations, elles doivent venir de lui dans cette équipe, parce que Ilié va être beaucoup plus donc Ilié qui a sa place va avoir une forme de discipline beaucoup plus marquée avec le ballon, sans ballon, et notamment avec le ballon, il va essayer de chercher vraiment des zones pour recevoir la balle, alors qu'un Sanchez, il va avoir beaucoup plus de liberté, il va être capable d'avoir des idées que d'autres n'ont pas. Et je pense quand même, et il faut le dire, que dans ce match-là, le fait d'avoir gagné sans les idées de Sanchez, c'est quand même, pour moi, c'est quand même assez révélateur de ce que fait bien Lausanne en ce moment. C'est qu'il est quand même capable de faire tourner un match dans le bon sens, même quand on lui oppose une configuration de match à laquelle il n'est pas forcément préparé, ou en tout cas, il n'a pas forcément les armes pour faire la différence.
Vincent, il y a cette série d'invincibilité. On peut parler de, oui, de l'absence d'Alvin Sanchez qui va être prolongée. Il y a Olivier Custodio qui est désormais un latéral assez exemplaire. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce LS actuel?
Ben, c'est pas que ça me frappe, mais en fait, je suis content pour Ludovic Magnin, et c'est ce que je disais au début et ce que Giacomo a aussi évoqué, c'est le fait que, en fait, il a travaillé sur une continuité, sur une vraie pensée. Alors, certes, pas spectaculaire, je rejoins Valentin, hein, ça a rarement été spectaculaire à Lausanne, mais en fait, ça paye enfin pour eux, et je trouve qu'ils commencent gentiment à être à leur place. Alors, je dis pas que Lausanne va être invincible, enfin, va continuer toute la saison sur cette lancée et ne va pas perdre de match, mais je dis juste que voilà, ça prouve qu'un bon entraîneur qui a des certitudes et s'il n'est pas non plus complètement borné, eh ben, il va finir par quand même avoir des résultats. Et en fait, c'est pas que ça me frappe, mais ça me satisfait. Je suis content de l'endroit où se trouve le LS actuellement.
Giacomo, c'est peut-être une question piège, on va rejoindre un peu ce qu'a dit Vincent, mais est-ce qu'on n'a pas trop tendance à associer les déboires ou la réussite d'un club à son simple entraîneur?
Oui, je pense que ça, c'est un fait. C'est souvent comme ça. C'est aussi le chemin le plus rapide pour critiquer une équipe lorsqu'il y a un moment un peu moins bien au niveau des résultats. Et après, ben voilà, ça dépend à chaque fois de la direction derrière, à quel point elle est patiente, aussi du caractère, des capacités de réponse de l'entraîneur. Là, en l'occurrence, simplement en se référant au match de hier, si on prend Ludovic Magnin. Faut quand même relever, voilà, sur ces dernières parties, il a été capable de repositionner Custodio en tant que latéral. Voilà, c'était difficile de l'imaginer. Pourtant, ça s'avère être une réussite. Encore hier, il est titulaire. Sa passe décisive, elle est pour Brighton Labo, un joueur qui, l'année passée, il était tout simplement intraitable en Challenge League. Là, on le voit arriver en Super League. Il y a son niveau qui a été un peu remis en question. Est-ce que la marche, elle est pas trop haute? On a souvent vu, hein, des joueurs de Challenge League lors des dernières années, Ardaïds, Polero, ils étaient meilleurs buteurs. Ils marquaient 20, 25 buts. Ils venaient en Super League. Ils étaient transparents. Il y a eu ce doute-là qui s'est installé. Brighton Labo, maintenant, est en train finalement de prendre ses marques petit à petit. Et voilà, je pense que lors des moments comme ça où on a tendance à trop rapidement pointer du doigt les entraîneurs, il y a aussi, ben, d'un côté les joueurs qui peuvent être capables de lever leur niveau de jeu individuellement. Et ensuite, ça se répercute au niveau des résultats et ça calme les critiques.
Est-ce qu'il faut dire quand même ce qu'il faut juste quand même dire sur Magnin, et ça c'est pour moi c'est important. Un bon entraîneur, c'est aussi un entraîneur qui sait prendre des décisions fortes quand même quand elles sont pas forcément les plus visibles, qu'elles s'imposent, enfin qu'il n'est pas forcément mis dos au mur. Là quand même, dire à un moment ou à un autre, on met Roche, on met Custodio à droite, Guiguerre qui est suspendu, Guiguerre qui revient, on laisse Custodio à droite, on garde ce milieu-là. C'est quand même important et c'est quand même ce qui peut te donner le tournant, qui peut donner un tour à une saison. Dans le bon sens. Alors, je dis pas que grâce à ça, Lausanne va enchaîner 25 matchs sans défaite. Mais en tout cas, c'est une décision qui allait dans le sens du jeu, qui a quand même, pas de, disons, elle allait pas de soi à la base, mais maintenant, elle semble tout à fait logique et elle tout à fait pertinente. Donc, c'est quand même que l'idée est bonne et que l'idée, il fallait la prendre. Peut-être qu'elle est plus facile à prendre en se disant, je laisse mon capitaine sur le terrain, je le déplace tout simplement de place et je mets un joueur qui est très bon à l'entraînement, je le mets au milieu. C'est sans doute peut-être plus facile que se dire on joue plus du tout avec Custodio, hein, c'est évident. Mais quand même, le fait de le faire, le fait de forcer Custodio à aller jouer à droite et de lui montrer qu'il peut être intéressant, qu'il peut être pertinent et qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe, eh ben ça donne quand même de la crédibilité à la fois aux joueurs et aussi à l'entraîneur.
Vincent, j'ai l'impression que Ludovic Magnet aime beaucoup ça, avoir des bonnes idées pour certains joueurs. On se souvient du cas de. Pardon, j'ai oublié son nom. Défenseur anglais qui est reparti.
Archie Brown.
Merci beaucoup, exactement. Qui l'avait simplement donné une deuxième vie en le repositionnant dans l'axe de la défense en début de saison dernière. Il fait ça maintenant aujourd'hui avec Olivier Custodio. Ça plaît à Ludo, ça, non?
Ben c'est la qualité d'un coach, c'est déjà de voir le potentiel ou les qualités de certains joueurs qui ne verraient pas eux-mêmes, mais c'est aussi de les convaincre qu'ils sont capables de et qu'ils vont pouvoir apporter plus à l'équipe en jouant là qu'à un autre poste. Moi, je suis pas surpris du fait que Custodio puisse jouer latéral. Je veux dire, il a la vision de jeu, il a la connaissance du jeu. En termes de placement, c'est un excellent joueur. Et puis surtout, ben, offensivement, avec le ballon, on sait qu'il va pouvoir bah, bénéficier à son équipe. Et bien, et Giacomo l'a dit, hein, le centre hier pour Labo, bah, ça vient aussi de la qualité du pied d'Olivier Custodio. Alors, c'est sûr, on peut avoir des interrogations si Lausanne joue une autre équipe que le slow avec du pressing ou avec. Voilà, mais finalement, avec le ballon, il n'y aura aucun problème pour Custodio, qu'il soit dans l'axe ou sur le côté.
On va fermer cette page Servetto-Lausannoise avec une dernière question. Valentin, est-ce que finalement la situation des deux clubs, c'est pas une ode à la stabilité, parce qu'on a vu les deux clubs ne absolument pas paniquer en début de saison. Il y a évidemment eu des discussions, mais si on est resté là, c'est pas parti plus loin, c'est pas parti dans la presse, dans les tribunes, etc. Et aujourd'hui, la roue a tourné.
Oh, je sais pas si c'est pas parti, parce qu'on a quand même, il y a quand même pas mal de discussions autour de ça. Mais disons que c'est le symbole de deux clubs qui voient un petit peu plus loin que simplement. Enfin, disons qu'ils ont nommé leur entraîneur dans des idées qui sont très très stables, dans une structure qui est très stable. Enfin, ils l'ont stable. Leur entraîneur est pas là pour rien, quoi. Quand Lausanne nomme Manien, c'est pas simplement un test. On veut nommer l'entraîneur des Vaudois, on le prolonge carrière, on croit avec lui, on le soutient. Quand Weiler est nommé, c'est un processus de réflexion qui date d'il y a plusieurs mois en arrière. C'est Didier Fischer qui est derrière, qui le soutient jusqu'au bout, qui, même quand il vient d'enchaîner 6 ou 7 matchs en victoire, bah, il dit « Moi, je viens le 30 septembre contre Lausanne et je viens montrer que je suis présent. C'est pour montrer à tout le monde que Weiler, c'est mon choix et c'est le bon choix et c'est le choix du club et c'est comme ça qu'on va continuer. Et il n'y a pas de danger pour lui. » Et depuis, bah, c'est là où la série de victoires a été lancée par Servette, par Weiler. Donc oui, c'est simplement que c'est des entraîneurs pour lesquels les clubs en question ont beaucoup réfléchi et c'est un choix qui est clair de leur part. C'est pas, il n'y a pas eu de doute autour d'eux à la base.
Giacomo, on va parler de ce qui fait moins sourire aussi. Stade Lausanne a pris la dernière place au week-end, hiver donc continue de dégringoler. Ça ressemble quand même gentiment à un retour à la normale, non?
Oui, c'est vrai. C'est des équipes, notamment Yverdon, hein, qui avaient eu un début de saison assez exceptionnel. Les deux, hein, que ce soit Yverdon ou Stade Lausanne-Ouchy, ce week-end, ils ont eu des approches après cette trêve internationale assez minimaliste, assez défensive. Je pense tout d'abord à Yverdon face à Lugano ou jusqu'à la 60e. Mais voilà, il faut l'appeler comme elle est, cette boulette de Kevin Martin, malheureusement, sur cette frappe lointaine d'Aïdari qui ouvre totalement la porte aux visiteurs. Jusque-là, ça tenait, hein, parce que voilà, Yverdon se défendait. Yverdon pouvait bénéficier d'une contre-attaque, notamment avec des joueurs comme Tazar. On a souvent vu marquer des buts cette saison. Et après, tu dégringoles complètement sur l'engagement. Kevin Martin, qui est encore en train de se demander ce qui s'est passé, il se prend 2-0 sur son poteau. À partir de là, c'est terminé. Et puis Stade Lausanne-Ouchy pour la première de Dionisio, où il repasse à une défense à 5, vraiment avec très peu de risques. Finalement, quand tu te fais punir, il y a des occasions, hein, sur la fin, avec notamment Aydini. C'était un peu, du moment que tu prends le premier but et que tu joues avec cette approche, c'est difficile de faire mieux. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on peut parler un peu d'un retour à la normale. C'est logique, entre guillemets, que Stade Lausanne s'incline contre le Lausanne Sport et qu'Yverdon perde contre une équipe comme Lugano. C'est pas normal qu'ils perdent 5-0, évidemment.
Vincent, l'Yverdon Sport de Marco Schellibo m'avait pris 6-1 à Yverdon en début de saison.
Lugano.
Pardon ?
À Lugano.
À Lugano, ouais.
J'ai dit quoi ?
À Yverdon.
Ah oui, pardon. Ouais, à Lugano. Et on avait l'impression qu'il y avait une sorte de passe-droit autour de cette équipe. Bon, d'accord, c'est 6-1, mais ça fait partie de son apprentissage. C'est pas dramatique, elle saura rebondir. Là, ils prennent 5-0. Et la mentalité, l'atmosphère autour de l'équipe a quand même changé. Il y a quand même une certaine sévérité qui n'existait pas avant.
Complètement. Mais en même temps, la réaction des joueurs après la défaite, la première, hein, initiale contre Lugano, le carton qu'ils avaient pris, c'était ça nous remet les pieds sur terre, ça nous remet à l'endroit. Maintenant, on se rend compte qu'on est en Super League, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que les erreurs, elles se payent cash. Là, je suis plus inquiet maintenant. En fait, pour moi, et c'était incompréhensible pour tout le monde, ce changement de coach, j'ai très peur que Mangiarati perde rapidement son vestiaire, pour être franc. Parce que il y a ce changement de coach, alors que les résultats étaient bons, que Yverdon était le meilleur néo-promu dans ce début de saison, c'était inattendu. Il y a eu tellement de mouvements, tellement de nouveaux joueurs, et Schellibaum, il gérait ça. Alors, en tout cas, vu de l'extérieur, parfaitement. avec des résultats. Et là, en fait, Yverdon se met tout seul en difficulté en disant « Ouais, mais on veut un football moderne, on veut mettre en avant nos jeunes joueurs, on veut mettre en avant nos talents. » Et c'est exactement le discours qu'avait eu le FC Bâle avant de se planter complètement sur les années suivantes et de mettre fin à un cycle vertueux. Alors, le cycle vertueux d'Yverdon, il est plus court. Il y a cette promotion, il y a le titre en Challenge League. Et il y a un bon début de saison. Et en fait, pour des raisons qui sont pas très claires, parce que c'est pas Schellibaum, il avait un football vieux, hein, ou poussiéreux. Mais donc, il y a des raisons un peu cachées, il y a un agenda derrière. On décide de changer de coach et de remettre en question certains joueurs. Et résultat, ben, je pense que Mangiarati, je sais pas à quel point il a le contrôle sur cette équipe, et j'ai très peur pour lui qu'il perde complètement son vestiaire. Ils ont quand même pris, c'est quoi, 10 buts en 2 matchs, là.
Oui, c'est ça. Valentin, tu as l'impression que c'est ce qui pend le plus au nez d'Yverdon, la menace d'une cassure entre l'équipe et le coach.
Écoute, il y a quand même. Évidemment que le climat n'est pas très bon autour d'Yverdon, et ça tient surtout de la façon dont Marcus Schellibaum a été évincé il y a de ça 4 semaines maintenant. Première chose, si on relativise un minimum, les 3 premiers matchs de Mangiarati, en effet, c'est 2 défaites, 1 nul, c'est 1 point. Les 3 derniers matchs de Schellibaum, c'est 2 défaites, 1 nul, c'est aussi 1 point. Il faut quand même juste remettre en contexte. Ce n'est pas parce que l'entraîneur a été changé qu'il y a une dynamique qui a été inversée complètement.
Il y a des claques avec Schellibaum, il y en a eu quelques-unes aussi.
Il y en a eu aussi. Donc voilà. Maintenant, évidemment qu'il y a une sévérité du discours autour d'Yverdon, parce que, et on peut le comprendre, on peut l'entendre, ce n'est pas une façon dont on a d'aborder le football, en tout cas d'aborder la direction sportive d'un club de football, qui est populaire, qui est accepté de toutes parts. Ça va un petit peu à l'encontre des valeurs du football qu'on aime entretenir. Et donc, quoi qu'il se passe autour d'Yverdon, ça va être jugé et évalué à l'aune de cet aspect-là. Maintenant, et là où je pense que Vincent est, en tout cas, tout a sans doute raison, c'est que ce coach-là, il y a avec ses joueurs, il n'y a pas une unité avec ses joueurs, il n'y a pas une union avec ses joueurs. Et on se demande même à quel point est-ce qu'il a l'emprise et la possibilité de faire jouer vraiment tous les joueurs qu'il a envie de faire jouer. Est-ce que contre Lugano, c'était vraiment l'idée de départ pendant toute la semaine, en tout cas même pendant les 2 semaines avant le match contre Lugano, de se dire on va partir avec un milieu où il y aura Malula et Lucid dedans. Moi, j'ai le droit d'en douter, et je crois que Mangiarati était beaucoup plus content de ce que son milieu était capable de faire quand Cornet s'est rentré que avant. Alors évidemment, avant, il venait de se prendre 3 buts aussi. Mais voilà, enfin, c'est, disons, je ne sais pas, et je me permets d'entretenir encore le doute là-dessus, même si Mangiarati l'avait dit au départ que non, il n'y aurait aucune intrusion dans son travail, aucune ingérence. Mais quand même, je pense qu'on doit quand même, d'une manière ou d'une autre, lui passer des messages de manière succincte, de manière directe, de manière indirecte, j'en sais rien. Mais on doit lui passer des messages, et il y a certains joueurs qui doivent faire jouer, en tout cas qui doivent plus faire jouer que d'autres pour l'instant.
Bon, mais le changement de coach a aussi été opéré avec certaines promesses, avec les promesses d'un football moderne, avec les promesses d'un football proactif. Est-ce que c'est ce qu'on voit ? Est-ce qu'on en voit les bribes ?
Pas du tout. Enfin, on en a vu un petit peu à Bâle sur le premier match. Contre Lausanne, c'est déjà plus compliqué. Contre Lugano, oui, enfin, on voit qu'il a une idée, mais en fait son idée elle s'est confrontée à la réalité de l'adversité, de la force de l'adversité. Donc Lugano qui est évidemment largement meilleur que Yverdon. On a vu que Lucif avait un rôle hybride dans le cœur du jeu avec le ballon, sans le ballon, et puis un peu plus haut comme dans un poste d'ailier gauche avec le ballon. Mais enfin, ça a jamais mis en difficulté Lugano, et c'était pas assez complexe à mon avis pour mettre Lugano en difficulté. Et puis je pense que de toute façon ils n'avaient pas les qualités pour faire autre chose, ou en tout cas les faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait samedi soir.
Bon, je pense que très clairement pour le moment il y a vraiment pas ce football plus flamboyant que les dirigeants souhaitaient avoir en faisant venir Alessandro Mangiarati. Alors, on peut avoir je pense qu'il faut, hein, et on doit avoir une certaine marge de tolérance, parce que quand un entraîneur arrive en pleine saison, disons que les premiers matchs, il a plus souvent tendance à vouloir ne pas les perdre qu'à vouloir les gagner, pas vouloir prendre tous les risques. Après, voilà, maintenant, ça fait 3 matchs, il y a quand même eu cette trêve internationale. Comme l'a très bien souligné Valentin, si tu veux jouer un football offensif, flamboyant, etc., certes, les choix des joueurs ne font pas tout, mais quand tu mets Malula au milieu de terrain, ça reste un défenseur central. Tu l'as eu comme cette défense à 3 qui était plutôt une défense à 5. Donc, tu as quand même 6 joueurs à vocation défensive sur le terrain alors que tu joues à domicile. Avant même le coup d'envoi, ça ne donne pas la promesse d'un Yverdon très tourné vers l'offensive. Maintenant, voilà, il y a eu ses propres matchs de Mangiarati. Il a eu aussi cette trêve pour travailler. On va commencer à l'attendre gentiment. Il y aura besoin de points. Le problème, c'est que le prochain match, ben, il est à Saint-Gall. Il n'y a pas une équipe qui a pris un seul point à Saint-Gall. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer Yverdon aller chercher quelque chose à Saint-Gall en termes de points, mais aussi aller jouer à Saint-Gall à visage découvert, parce qu'on sait comment ça peut se passer. Une équipe qui va à Saint-Gall à visage découvert, tu commences et puis un quart d'heure, tu es déjà mené 2-0 et après, ça peut très vite partir, comme ça a été le cas samedi contre Lugano autour de l'heure de jeu. Donc oui, je pense qu'à un certain moment, Mangiarati, après, on sait aussi, hein, comme a très bien dit Valentin, dans quelle mesure c'est lui qui fait tous ses choix, c'est lui qui décide tous les joueurs qu'il met sur le terrain. Mais il va falloir montrer ce pourquoi les dirigeants ont souhaité te faire venir à Yverdon.
On aura décidément beaucoup parlé d'entraîneurs aujourd'hui. Je serais curieux d'avoir votre avis par rapport à Stade Lozanouchi. Ricardo Dionisio de retour en Suisse, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Vincent, peut-être, pour commencer.
Je vais dire une bonne. Je pense pas qu'on puisse juger Dionisio sur ce premier match à la Pontaise. Je trouve que ce qu'il fait, il est finalement assez logique. C'est tenter de stabiliser. Alors oui, tu viens avec un bloc bas. Non, ça va pas être spectaculaire. Mais d'un autre côté, quand des entraîneurs à succès sont arrivés, ils ont commencé par solidifier derrière. C'est même le cas de Bo Henriksson, hein, quand il revient à Zurich. C'est d'abord, on va être solide derrière. Et résultat, ben, Zurich se retrouve devant maintenant. Donc je peux pas, je dis pas que le Slow va se retrouver devant au classement, mais je trouve logique en fait son choix à ce moment-là. Je trouve que Dionisio, quand il est passé à Sion, il a pas eu sa chance. C'était très court, c'était pas un bon climat, et c'est rarement un bon climat de toute façon pour les entraîneurs à Sion. Donc au final, je pense que c'est quelqu'un de bien, qui a une bonne vision du foot, qui peut être très intéressant. Mais encore une fois, il va falloir laisser un peu de temps. On parlait avant de spectacle. À Yverdon, on veut du spectaculaire. Pour avoir du spectaculaire, il faut soit une entente extraordinaire entre les joueurs, qui se comprennent, qui savent où se placer, que offensivement ça roule, qu'il y ait des automatismes, ou des qualités extraordinaires. Des joueurs qui sont au-dessus du lot et qui vont pouvoir faire le spectacle. Au slow, il y a pour l'instant ni l'un ni l'autre. On va essayer déjà de créer une entente et puis d'avoir un groupe qui est cohérent. Et je pense que ce que Dionisio fait sur ce premier match est logique. Après, il faudra voir ce qu'il fait avec un peu de temps.
Valentin, ton avis sur la question?
Moi, je suis content d'avoir des. Alors, c'est pas une nouvelle tête, Dionisio, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait dégagé beaucoup de promesses à l'époque avec Nyon. C'était en première seule ligue, encore à l'époque. Qui a en effet pas eu sa chance à Sion. Il arrive dans un contexte qui était compliqué, le Covid, etc. Moi, j'ai envie de voir. Et puis, ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'à Stade Lausanne, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de nommer forcément le meilleur entraîneur, ou enfin, un entraîneur qui soit rodé à la Super League et puis sans doute qui fera des points d'une manière ou d'une autre, mais qui ne permettra pas forcément à ce club de se développer. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un profil comme Dionisio, qui est ambitieux, qui a des choses à prouver, qui a vu d'autres choses aussi dans sa carrière, qui a des idées qui peuvent être un petit peu différentes, qui peuvent être un petit peu nouvelles. Et j'ai presque envie de dire que Dionisio, c'est pas tant cette saison que je vais l'attendre, c'est presque la saison prochaine en Super League ou en Challenge League, peu importe, mais c'est presque là qu'il aura peut-être plus de latitude pour mettre quelque chose en place de plus complexe. Alors je souhaite de réussir à maintenir Stade Lausanne, mais je suis pas convaincu que ce soit peu importe avec qui tout à fait possible, et que ce soit vraiment dans le sens du développement du club que de maintenir peu importe comment ce Stade Lausanne là.
Giacomo, est-ce que oui, je t'écoute.
Et je pense aussi que si on compare à la transition chez Libao Mangiarati et on regarde celle entre Brezza et Ricardo Dionisio, il arrive avec moins de pression parce qu'il n'y a pas cette promesse de voilà, il vient pour avoir un jeu plus moderne, un jeu plus flamboyant. Ici, c'est un changement parce que les dirigeants, ils n'étaient pas contents des résultats. Tu arrives dans un contexte où Stade Lozanouchi a attendu comme concrètement comme dernier. Enfin, ça ne serait pas un scandale de les voir arriver dernier. Tu n'as pas forcément, tu sais que tu as le plus petit budget, que tu as un des effectifs au niveau purement qualitatif, si on regarde nom par nom, certainement où il y a la moitié des joueurs qui ont un niveau de Challenge League. Donc, tu n'as pas forcément cette pression. Et je pense que, comme l'a dit Valentin, c'est un choix plutôt à long terme. Ce n'est pas qu'on l'a mis 5 matchs. S'il fait un point en 5 matchs, il va être loin. Il va avoir le temps petit à petit de mettre ses idées en place, comme ça n'avait pas été le cas à l'époque à Sion. Premier match à Lausanne, il essaie de ne pas perdre avec ses limites de 5. Je pense que gentiment, peut-être aussi sur les matchs à domicile, plus que sur les matchs à l'extérieur, on va commencer à avoir sa patte. Mais en tout cas, c'est un choix plutôt cohérent et j'ai l'impression que le virage pris par Stade Lausanne-Ouchy, il est moins fort que celui qu'a pris Yverdon en passant d'un profil à l'autre d'entraîneur.
Merci beaucoup à vous trois. Je vous propose de conclure par une petite page Young Boys et Ligue des Champions. Valentin, tu travailles sur le sujet en ce début de semaine. Est-ce qu'il y a vraiment… Donc, Young Boys joue demain contre Belgrade avec cette troisième place en ligne de mire. Est-ce qu'il y a vraiment que la troisième place du groupe qui se joue dehors?
Oui, il joue à l'avenir européen. Et c'est pour moi, ce qui est important surtout, c'est que… Et ça fait quand même quelques années que je le dis, IB doit avoir un jour une véritable histoire européenne, un récit européen raconté, que ça ressemble à une épopée ou pas, à la rigueur, on mettra les mots qu'on veut mettre avec, mais au moins qui passe un, deux, trois, allez, trois tours en Coupe d'Europe. Et évidemment, ils n'arriveront pas à le faire en Ligue des Champions, il faudra le faire en Europa League ou en Conference League. Et je pense que c'est le meilleur moyen de l'obtenir, c'est évidemment d'être versé en Europa League en gagnant ce match-là demain. Le problème de l'IB, c'est que ça fait depuis 2018 qu'ils sont dominateurs du football suisse sur la scène nationale, mais que depuis 2018, ils n'ont qu'une seule performance de choix, c'est quand ils avaient battu le Bayer Leverkusen en 2021. Donc moi, j'attends l'IB qui développe quelque chose d'autre, qui transporte un peu plus loin que leur simple public, mais également le public suisse, un petit peu comme Bâle l'avait fait au début des années 2000, et qu'il y ait quelque chose qui s'écrive autour d'eux. Quoi. Et c'est... Pour moi, chaque saison qui se prolonge pas en Europe du côté d'IB, c'est presque un demi-échec par rapport à ce que l'intelligence avec laquelle ce club se construit, se développe depuis plusieurs années.
Vincent, l'épopée, c'est pour cette saison ? Ça paraît compliqué, non ?
Ça paraît compliqué, non. C'est tout se joue presque demain. C'est-à-dire qu'il faut créer un gap avec cette équipe de l'Étoile Rouge, les mettre à distance et puis se qualifier pour la suite en Europa League. On a vu un FC Bâle la saison dernière qui était un peu malade, aller quand même en demi-finale de Conference League. Donc comme quoi, c'est aussi possible pour les clubs suisses. Je rejoins à 100% Valentin. C'est-à-dire que Bâle s'est créé une histoire européenne, a créé une légende autour de ce club en plus de tous les titres de champion. Et maintenant, c'est au tour d'IB d'en faire de même. Et clairement, ce ne sera pas en Champions League. Le niveau, il y a tellement un gap de niveau entre ce que la Suisse peut produire et ce qui se fait au niveau européen que non, l'Europa League, pour moi, c'est la bonne catégorie pour un club comme IB.
Giacomo, Valentin parle d'un demi-échec quand Young Boys n'arrive pas à aller un peu plus loin que la base en Coupe d'Europe. Tu es d'accord ? C'est des mots assez forts quand même, tu es d'accord avec ça ?
Oui, là, il y a une certaine pression sur les épaules de Raphaël Vicky. L'année passée, IB qui n'a pas eu d'Europe du tout. Et maintenant, voilà, ce match à domicile face à l'Étoile Rouge, c'est jusqu'à présent le match de l'année, tu es obligé de l'emporter. Autrement, je ne sais pas quelle tournure aussi peut prendre la saison des Bernins, parce que sincèrement, là, tu vois qu'en championnat, c'est plus serré que d'habitude. Il y a vraiment voilà, cette date, je pense, qui est entourée un peu à l'image du match qu'avait eu Servette face à Sheriff Tiraspol il y a quelques semaines à domicile au Stade de Genève. C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour continuer à avoir un avenir européen au printemps. Et là, c'est la même chose pour IB. IB, porte-drapeau du football suisse, doit être le porte-drapeau du football suisse au niveau européen. Et ça passe par être versé en Europa League. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fonction du tirage, peut-être espérer écrire une belle histoire. Mais je pense que si demain, IB se fait éliminer, même si voilà, ils ont 20 tirs à 2 et ils perdent 1-0, il n'y aura pas d'excuse. Et je pense qu'il y aura le procès fait à Raphaël Vicky serait assez dur. Espérons que ce ne soit pas le cas.
Là où Giacomo a raison, je trouve que c'est important, c'est que la suite de la saison de IB peut aussi s'écrire à travers ce match-là, dans le sens où on se souvient qu'il y a deux ans, quand IB avait fini quatrième son groupe de Ligue des Champions avec l'Atalanta Villarreal et puis maintenant le dernier, et la Playou, ils avaient été sortis. À l'époque, à la trêve hivernale, ils avaient décidé de vendre Michel Ebischer, Sylvain Efti et encore un troisième, je ne sais pas, Christopher Martins à l'époque, qui est Martins Pereira, qui était parti. Et la deuxième partie de saison de Libé en championnat avait aussi été catastrophique, et c'est là où Zurich avait été champion. Et là, je me dis que cette saison-là, alors peut-être qu'ils ont un petit peu moins de valeur marchande, mais un Garcia, un Greenwich, un Amendola, enfin, même Camara, des joueurs comme ça, si tu n'as pas d'Europe en deuxième partie de saison, peut-être qu'il y a des clubs, des grands championnats européens qui viennent les chercher, et puis derrière, tu ne sais pas ce que tu arrives à faire en championnat. Tu auras Servette, tu auras Zurich qui seront forcément là pour essayer de leur passer devant, quoi.
Tu as prononcé tout un tas de mots, ça me fait, tout un tas de noms, pardon, ça me fait penser à Castri Ottimeri qui s'est assez gravement blessé cette semaine. Il y a rarement de bon timing pour ça, Vincent, mais là, c'est vraiment la poisse.
Ouais, c'est un immense coup dur pour lui parce que cette équipe-là, en plus, elle a besoin de joueurs comme Imery. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu des confirmations des prospects qu'ils avaient faits. Hein. Je pense à un Roudani qui n'existe pas à Berne. Et Imery, lui, il avait commencé à gagner sa place. Il avait quelques bons matchs. Il n'avait pas 90 minutes référence, mais pour moi, il était sur la pente ascendante. Et puis forcément, il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, hein, c'est sûr, mais il va falloir faire avec. Ça fait partie de la carrière d'un joueur aussi, hein, de savoir se reconstruire et de rebondir ensuite. Et on lui souhaite que ça se passe bien.
Ce sera le malheureux mot de la fin. Merci beaucoup pour votre participation à vous trois. Et
Merci.
bonne journée, tout simplement. Merci, les gars.
Merci.
Merci.
Merci.